Il est ramené que on fait attention à lire toujours Bamidbar avant Shavuot. Des fois, on lit même Nassau avant Shavuot, si. Mais en tout cas, on s'arrange pour que Bamidbar, la paracha de Bamidbar, soit lue avant Shavuot. A priori, si on a ce souci, c'est qu'il y a dans Parshat Bamidbar des éléments dont on peut penser qu'ils sont des préparations peut-être nécessaires pour Shavuot. Il s'agit de se préparer à Matan Torah. Et il y aurait donc dans ce parasha de Bamidbar, il y aurait des éléments qui servent à la préparation, effectivement. Donc, on va essayer de regarder un petit peu, pour commencer, effectivement, ce qu'on peut comprendre comme étant les éléments de préparation à Shavuot. Bon, un des noms de la paracha de Bamidbar, c'est nombre, puisque au début de la paracha, on procède à un dénombrement des Bnei Israël. Évidemment, ce dénombrement-là, il pose un peu problème, parce que... Bon, pas. Ah, si. Il pose un peu problème parce que on vient de les compter, les Bnei Israël. Et effectivement, le total des Bnei Israël qu'on va obtenir ici n'est pas différent de celui qu'on connaissait déjà avant. Par conséquent, on voit bien que le but du dénombrement, ça n'est pas d'établir le nombre de personnes qu'on a devant soi, que ce soit pour faire la guerre ou pour autre chose. Alors, ça sert à quelque chose d'autre. Alors, il faut qu'on regarde d'un peu plus près les psoukim qui nous parlent de ce dénombrement. Bon, c'est tout au début de la paracha. Le dénombrement, il est décrit « Seu et rosh koladat bnei Israël ». D'abord, « Seu et rosh », ça veut dire en fait « élever la tête d'eux ». Donc, ici, il s'agit de dénombrer. Et la première chose qu'on nous dit, c'est il faut élever la tête d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Quand vous comptez, quand vous voulez faire une somme, si par exemple vous voulez faire la somme de deux poires plus trois pommes, le résultat de la somme, c'est rien du tout. On ne peut pas additionner deux pommes et trois poires. Pourquoi? Parce que c'est deux choses, c'est des espèces différentes, on ne peut pas les additionner. Par contre, si quand j'ai devant moi deux pommes et trois poires, ce que je peux faire, je peux les additionner à condition d'oublier qu'on a affaire à des poires et des pommes et de voir là que le fait qu'on a devant nous des fruits. Alors, si j'ai ici deux fruits plus trois fruits, bon, ça fait cinq fruits. Là, on peut additionner. Mais on a additionné en oubliant la spécificité des éléments qu'on a additionnés. Donc, quand vous additionnez des personnes, vous ne pouvez pas les additionner sans oublier ce que chacune d'entre elles a de particulier. En d'autres termes, si ce que vous voulez savoir, c'est combien de chair à canon vous avez, alors effectivement, Peu importe la personnalité de chacun, c'est de la chair à canon, donc on peut les additionner. Et ici, on est en train d'additionner, et la première chose qu'on dit, c'est surtout ce ou être roche, c'est-à-dire on va élever la tête de chacun. Donc on va considérer la personnalité de chacun. Par conséquent, on ne peut pas vraiment additionner. Et ensuite, il est dit que les gens vont être additionnés. Ils vont être additionnés. Le Mishpechotam vont être additionnés, littéralement le Mishpechotam pour leur famille, le Vetavotam pour leur maison paternelle. Le Gilgulotam, dans les têtes, et puis Kol Yotzei Tzava b'Israël, Lifkudehem, Otam, le Tzivotam, vous les allez additionner, le Tzivotam pour leurs armées, pour leur corps d'armée, pour leur bataillon.
Réussi à ouvrir, mais j'arrive.
Donc vous voyez, on parle d'un compte par rapport à la famille, par rapport à la maison paternelle, par rapport à la tribu, par rapport au corps d'armée éventuellement auquel ils appartiennent. Mais tous ces termes sont écrits avec un lamed d'abord. Le Mishpechotam, le Vetavotam, le Tzivotam. C'est quoi ce lamed-là? Normalement, ce lamed, il indique pour. On les a comptés pour leur famille, pour leur maison paternelle, pour leur tribu, pour leur bataillon, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire que ce qui nous intéresse ici, ce qui nous a intéressé, c'est pas tellement le nombre de personnes, puisque je vous ai dit, on le connaît celui-là, le total. Mais là, on va avoir un total par famille, le total de par tribu, par bataillon, etc. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est important pour la chose suivante. Il ne faut pas oublier que les gens avec lesquels on a affaire ici, ce sont des gens qui viennent de sortir d'esclavage. Ils viennent de sortir d'esclavage et ils vont arriver au Sinaï et au Sinaï, ils vont atteindre un niveau exceptionnel, puisque ce qui se passe au Sinaï, entre autres, C'est que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je vais te parler. Je vais te parler. Et les Bnei Israël, ils verront que je te parle. Mais pour qu'ils voient que je te parle, il va falloir que les Bnei Israël soient, pour un tout petit moment, à la même hauteur que Moshe Rabbeinu. Pour qu'ils entendent la voix d'Hachem, ils entendent les choses comme Moshe les entend. Et Hachem a dit, comme ça, ils te feront confiance. Ils verront que vraiment je t'ai parlé. Donc quand tu vas leur dire, Hachem m'a dit ceci et ceci, et de vous le répéter, ben, ils te croiront. Parce qu'ils savent, ils ont expérimenté que je te parle. Donc les Bnei Israël, rien que pour cela, mais pour tout ce qui va avec le Sinaï, les Bnei Israël, ils doivent monter de très 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 bas, ils vont arriver très 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 haut. Très très haut, ça veut dire en fait, c'est une des choses qui est dite sur le Sinaï, que au Sinaï, les Bnei Israël sont, c'est une des lectures, sont devenus un peuple. Ils sont, à la limite, ils sont devenus un peuple pour pouvoir recevoir la Torah. Vous savez bien que la Torah n'a pas été donnée aux individus. La Torah, elle a été donnée au klal. Et parce que certains individus appartiennent à ce klal, à ce titre-là, la Torah les concerne. Ça veut dire que tous les individus qui forment le klal Israël jouent un rôle à l'intérieur de ce klal Israël. Un rôle, si chacun joue un rôle, ça veut dire mon prochain, il joue un rôle aussi important que moi dans l'économie générale du klal Israël. Par exemple, le Ve'ahavta l'Rechaka kamocha, d'accord? C'est pourquoi? C'est parce que l'autre, il a autant d'importance que toi dans l'économie du clan Israël. Et ça, évidemment, c'est très, très difficile de considérer que j'ai une importance, mais l'autre aussi. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, le problème, c'est que au Sinaï, au moment du Sinaï, les Bnei Israël vont entrer dans une alliance avec Hachem, dans un brit avec Hachem. Il y a un brit au Sinaï. Ce brit, il a lieu avant les Aseret Hadibrot. Ce brit a lieu le 4 Sivan, alors que a priori, Matan Torah, c'est 6, 7 Sivan. C'est à ce brit-là que les Bnei Israël ont répondu Naaseh v'nishma. Naaseh v'nishma, ils ne l'ont pas dit quand ils ont entendu les Aseret Hadibrot. Ils l'ont dit plus tôt. Ils l'ont dit en acceptant le brit. Et quand ils ont dit Naaseh v'nishma, ils ont donc accepté le brit, et je crois qu'on a déjà parlé de cela. Ils ont accepté un brit, une alliance dont ils ne connaissaient pas le contenu. Ils ne connaissent pas le contenu. Et je crois qu'on, je répète ce point parce que c'est important, c'est que en réalité, on ne peut pas s'engager à je ne sais pas quoi, à n'importe quoi. Un chèque en blanc, ça marche pas. La Torah. Vous devez savoir à qui et comment et combien vous vous engagez. Et donc la question qui se pose, comment est-ce que les Bnei Israël ont pu s'engager dans le brit alors qu'ils ne savaient même pas le contenu de ce brit, de cette alliance? Et pour avoir une vue bien claire, je vous rappelle que Akadosh Baruch Hu, la Torah, il l'a proposée aux autres avant nous. qui eux l'ont refusé, la Torah. Et quand Chazal nous décrivent comment ça s'est passé, ils disent que quand Hachem leur a proposé la Torah, ils ont demandé, OK, qu'est-ce qu'il y a dans cette Torah? Et à ce moment-là, Hachem leur a dit, il a dit à chacun qu'il y avait dans la Torah qu'on lui proposait quelque chose qui lui était totalement impossible. À ceux qui vivaient du vol, il leur a dit, c'est interdit de voler. Ceux qui vivent du meurtre, interdit de tuer, etc. Et voilà, on ne comprend plus du tout. D'accord? Est-ce qu'on voulait nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu était un mauvais vendeur? Quoi? Vous voulez proposer quelque chose à quelqu'un et vous, ce que vous dites, ben, voilà, ce que je te propose, hein, c'est mauvais pour toi. Tu peux... Mais je te le propose. On ne comprend pas. On ne comprend pas de quoi il s'agit. Mais l'explication, je pense que là, vous la connaissez aussi. L'explication, c'est la suivante. En vérité, quand les Goïms ont demandé qu'est-ce qu'il y a dans la Torah que tu nous proposes, ils avaient déjà perdu. Parce que même si ce qu'Hachem leur dit, leur aurait dit, était quelque chose qu'ils pouvaient parfaitement accepter et qu'ils acceptent la Torah. En vérité, ce n'est pas du tout la Torah qu'ils auraient acceptée. Ils auraient accepté une loi qui colle parfaitement à leur qualité, à leurs défauts. Ça colle comme une combinaison de ski chez un professionnel. Ça colle parfaitement. Mais ce n'est pas ça la Torah du tout. Parce que quand vous acceptez la Torah, c'est quoi votre situation par rapport à la Torah? Vous acceptez la Torah, vous vous mettez au-dessus de la Torah. Puisque vous jugez, est-ce que c'est bon ou pas? Donc, vous portez un jugement sur la Torah. Donc, si vous l'acceptez, vous l'acceptez parce que, bon, elle est bonne pour moi, mais c'est moi qui décide qu'elle est bonne. Donc la Torah, vous êtes au-dessus de la Torah. Or la Torah, c'est le plan du monde. La Torah, c'est quelque chose qui nous saisit avant même qu'on ait commencé de réfléchir. Sinon, ce n'est pas la Torah, sinon c'est une loi. Peut-être parfaite, mais c'est une loi et ce n'est pas la Torah. Ce n'est pas ça du tout. Par conséquent, quand les Bnei Israël l'ont accepté sans savoir ce qu'il y avait, il faut se demander, bon, c'est parfait, mais pourquoi, comment ils l'ont accepté? Alors, il faut revenir sur l'histoire du don de la Torah, la proposition de la Torah aux Goïms. Quand les Goïms ont demandé ce qu'il y avait dedans, Hachem leur a répondu. Il a dit à chacun qu'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Bon, alors, les Goïms, quand la personne qui te propose quelque chose te dit que c'est mauvais pour toi, tu dois te demander, est-ce que j'ai affaire à un imbécile? D'accord? Il faut comprendre. Alors en vérité, quand il leur a dit ça, c'était une deuxième chance qu'il leur avait donnée. Pourquoi? Parce que justement, si on te dit que tu peux pas, quelque chose dont tu penses que tu ne peux pas l'accepter. Et il te le propose. Ça veut dire que celui qui te propose, il prétend savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est le seul moyen de comprendre pourquoi il le propose. En d'autres termes, ils auraient dû se dire, qui est-ce qui est au-dessus de nous? C'est le Créateur. Et c'est le Créateur qui me le propose. Et donc, je ne l'accepte pas du tout à cause du contenu. Je l'accepte parce que ça vient de mon Créateur. On est dans la situation, si vous voulez, où sinon c'est comme si le bébé disait à sa mère, écoute, ton lait n'est pas terrible, peut-être que je choisirais plutôt de boire du lait, je sais quelle boîte, on peut pas dire Nestlé aujourd'hui, d'accord? Donc voilà, je préfère ce lait-là et pas le tien. C'est le Créateur. Et donc, on a accepté la Torah, pas du tout à cause de son contenu, mais parce qu'elle venait du Créateur. C'est pour ça qu'on a accepté cette alliance. C'est une alliance incompréhensible, bien sûr. Mais on l'accepte parce qu'elle vient d'Hachem. Alors ensuite, Hachem nous dira quelques-unes des choses qui sont le contenu de cette alliance. Alors, on avait dit qu'en réalité, on ne peut pas accepter quelque chose si on ne sait pas ce que c'est. C'est vrai, sauf qu'il y a une exception. Il y a un cas de figure où quelqu'un peut accepter, s'engager, sans savoir à quoi il s'engage. C'est la situation du Eved. Un esclave, quand il se vend comme esclave, il ne sait pas ce que son maître peut être amené à lui demander. Mais en se vendant comme esclave, il accepte. Il accepte d'être soumis à la volonté de son maître. Nous étions Avadim le Paro et nous sommes devenus Avdei Hachem. Alors, bon, alors ça sonne pas très bien, esclave d'Hachem. L'esclavage par rapport à Hachem, évidemment, premièrement, l'esclavage par rapport à Paro, c'était esclavage par rapport à quelqu'un qui voulait notre mal. Et là, on a l'esclavage par rapport à quelqu'un qui veut notre bien. Et puis, le statut d'esclave, d'être esclave d'Hachem, il a un très très grand avantage, c'est que si nous sommes esclaves d'Hachem, ben nous le sommes, alors nous ne pouvons plus être esclaves de qui que ce soit d'autre. La place est occupée. Nous avons un maître déjà. Et donc nous ne pouvons plus disposer de nous et de donner cette disposition à quelqu'un d'autre. Et donc le fait d'être évêque d'Hachem, ça nous éloigne définitivement de toute avdoute. Et on est très sévère là-dessus. Cette notion que nous ne pouvons plus être esclaves, on n'a plus le droit de mettre quelqu'un, de faire en sorte que mon prochain devienne mon esclave. Par exemple, un employé il peut décider de quitter son employeur au mi-travail. Bien sûr, il va devoir le dédommager pour, etc. Mais on ne peut pas l'empêcher de partir. Parce que si on l'empêchait de partir, alors ça voudrait dire qu'il est esclave. Et donc, il peut partir. Alors bon, on va évaluer combien il a causé de dommages en partant puis en milieu du chemin. OK, il payera, mais il peut partir. C'est parce que sinon, il serait esclave. Donc, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Et vous vous souvenez de ça, on en a parlé. Le soir du Seder, on boit quatre coupes qui correspondent à quatre verbes qui décrivent la sortie d'Égypte, qui décrivent la sortie de l'esclavage. Et le verset qui correspond au quatrième verre, à la quatrième coupe de vin, c'est un verset qui ne parle pas du tout de la sortie d'Égypte. C'est un verset dans lequel Hachem dit qu'il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Ça parle pas du tout de la sortie d'Égypte. C'est l'époque de Matan Torah, d'ailleurs. Et donc, puisque nos maîtres ont dit que ça correspondait au quatrième vers, ça veut dire que Matan Torah, c'est encore un élément, c'est le couronnement, c'est le dernier élément constitutif de la sortie d'Égypte. La sortie de l'esclavage, on n'est pas sorti de l'esclavage pour être libre. On est sorti de l'esclavage pour être libre pour quelque chose. C'est-à-dire pour accepter et pour vivre selon la volonté d'Hachem. Pas libre pour le plaisir d'être libre. Donc la sortie d'Égypte, c'est effectivement la fin du processus de... Pardon, le Matan Torah, c'est la fin du processus de sortie d'Égypte. Quand les Bnei Israël sont arrivés au pied du Sinaï, ils sont devenus un peuple, comme on l'a dit. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils sont devenus un peuple. Si c'est vous qui deviez définir, devez leur donner des directives pour qu'ils deviennent vraiment un peuple. Qu'est-ce que vous feriez? Les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, en particulier quand ils ont franchi la mer, ils ont franchi la mer, dit le Midrash, dans 12 canaux. Un canal, un tunnel pour chaque tribu. Donc, en Égypte, tout le monde travaillait, quoi. Quand ils sortent tribu par tribu. Enfin, chaque tribu pour soi. Quand les Bnei Israël vont arriver en Eretz Israël, après leurs 40 ans de désert, de pérégrination, si vous voulez, ils vont conquérir Eretz Israël et ensuite ils vont passer 7 ans à partager la terre d'Israël entre les tribus. Si on veut fabriquer un peuple, alors il faut supprimer la structure tribale. La structure tribale, elle empêche l'unité du peuple. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Il y a dans l'histoire juive un moment où il y a eu une unité. C'est sous Shaoul, David, Shlomo, les trois rois, d'un peuple unifié. Entre le moment où ils sont entrés et le moment où ils ont demandé et obtenu un roi, il y a à peu près 400 ans. Et il y a trois royaumes, donc, enfin trois rois, Shaoul, David, Shlomo, et à partir du fils de Shlomo, c'est le schisme, ça rééclate. Donc il y a de nouveau plus d'unité. Et toute notre sarotte, beaucoup de notre viennent de ce qu'il n'y a pas d'unité. La notion d'unité, elle est très difficile à fabriquer. Quand Yaakov était dans son lit de mort et qu'il était entouré de ses fils, il a dit, mais j'ai raté mon coup, quoi. Je devais produire un peuple et j'ai devant moi 12 peuples. À ce moment-là, les fils de Jacob lui ont dit, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est vrai, nous sommes 12 peuples. Mais nous sommes unis par le fait que nous reconnaissons tous que Hachem est Echad. On n'est pas unis parce qu'on est tous les Téfis, mais parce qu'on reconnaît quelque chose qui est notre ciment. Le point que nous avons en commun, c'est cette reconnaissance de l'unité, de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. C'est difficile. Jacob, il n'a pas imaginé cela. Quand les Bnei Israël campent dans le désert, on a vu quand on a parlé du blasphémateur, chaque tribu campe à un endroit bien précis, avec des voisins bien précis, au nord, les uns au nord, les autres au sud, les autres à l'est, l'ouest. Chaque tribu pour soi. Est-ce qu'on a besoin de garder cette structure tribale? Alors, la vérité, c'est que cette structure tribale, elle est conservée parce qu'elle assure, elle assure la diversité. Elle garantit la richesse de la diversité. Chacun apporte sa contribution. Donc ça veut dire que chaque tribu joue un rôle qu'elle est seule à jouer dans l'économie générale du clan d'Israël. Et on tient à ce que cette spécificité soit conservée. Pardon? Oui, bien sûr. Le risque, c'est que ça permette pas au peuple de s'unir. Vous avez ce souci de l'unité où il faut faire quelque chose pour qu'il y ait l'unité. Regardez, il y a une halakha intéressante. Il y a une notion qui s'appelle Tfila Betzibour. C'est la prière dite collective, la prière du Tzibour. Alors, la prière du Tzibour, ça concerne la Amida, ça concerne la Shemoneh Esrei. C'est ça, la prière. Le chemin, c'est pas la prière. Le chemin, c'est une profession de foi, c'est quelque chose, c'est pas de la prière. La prière, c'est quand on demande quelque chose, et donc, c'est la Shemoneh Esrei, les 18, 19 bénédictions. Comment c'est? Quand est-ce que cette fila Betzibour? Vous avez des gens qui se sont réunis dans une synagogue, dans une pièce, et ils prient tous ensemble. Ça s'appelle pas Betzibour. Il faut faire quelque chose pour unir les gens. Alors, si vous regardez la structure de la prière, vous verrez qu'avant toute prière, il y a toujours un kaddish. Le Kaddish, c'est la proclamation de la royauté d'Hachem, etc. Mais le Kaddish, il ne peut se dire que quand on a 10 personnes, 10 hommes majeurs, juifs, etc. Donc ça veut dire que pour pouvoir dire le Kaddish, il faut fabriquer de l'unité. Il faut faire cette structure minimale de Eda, c'est-à-dire 10 personnes, le minyan. Et c'est comme ça qu'on fabrique l'unité, c'est comme ça que ça va pouvoir être Tfila Betzibour. Ce n'est pas la Tfila où des gens prient côte à côte, ensemble, peut-être même en phase, tout ce que vous voulez. Non. Il faut d'abord qu'il y ait un ciment et un geste qui fabrique l'unité, en quelque sorte. Et on a ce souci, chaque fois qu'on veut prier Betzibour, il faut d'abord un Kaddish qui va permettre de fabriquer l'unité. Quand on dit les slichot, avant Rosh Hashanah, il y a aussi un kaddish avant de dire les slichot, pour que la prière et la supplication de slichot, elle ait la dimension de tzibour. C'est un tzibour qui parle. Quand Esther veut aller intercéder pour sauver le clan d'Israël, Elle fabrique de l'unité. Qu'est-ce qu'elle dit? Tout le monde va jeûner ensemble. Moi y compris. Et fort de cela, je vais pouvoir parler au nom du Cibourg. Je parle de mon peuple. Sinon, je ne peux pas parler de mon peuple. Et venez Israël, c'était justement, c'est ce que disait cette crapule d'Aman. Ils me fousarment, fourrades, ils sont complètement dispersés. On peut d'ailleurs les tuer les uns après les autres, ils s'en apercevront même pas parce qu'ils n'ont pas de communication entre eux. Donc il faut fabriquer de l'unité. Alors comment on fabrique de l'unité? Eh bien, il faut commencer par la plus petite entité dont on va essayer qu'elle existe comme telle. C'est par exemple la famille. Et donc, quand on a fait le recensement des Bnei Israël, dont on parle dans Bamidbar, on les a recensés le Mishpechotam, pour en quelque sorte attribuer chacun à sa famille. Donc lui faire prendre conscience qu'il est un élément d'une famille. Cette prise de conscience, elle se fait de façon très, très impressionnante. Parce que le décompte, là, le compte, il se fait devant Moshe et Aaron. Ça veut dire que tout le clan d'Israël, tel qu'il est décrit ici, chacun va passer devant Moshe Rabbeinu et Aaron. Et Moshe va lui demander qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, etc. Et on va mettre en évidence le fait que, voilà, j'appartiens à telle et telle famille. Et donc, on va le fortifier dans sa conscience qu'il appartient à une famille. Et ensuite, on va mettre en évidence le fait qu'il appartient à une bétavot, c'est-à-dire probablement un ensemble de familles avec un grand-père ou, je sais pas, un arrière-grand-père, et donc qu'il appartient, conscience qu'il appartient aussi à ce groupe-là, et puis qu'il appartient aussi à une certaine tribu, et puis ensuite il appartient aussi au clan d'Israël dans sa totalité. Et ce sont des expériences successives où chacun doit comprendre qu'il a un rôle à jouer dans sa famille et en même temps un rôle à jouer dans Bet Avot, un rôle à jouer dans son chevet, dans sa tribu, un rôle à jouer dans le clan d'Israël. Et le clan d'Israël, il a un rôle à jouer dans le monde. Et maintenant, dans cette structure, dans chacune de ces structures, il y a une hiérarchie obligatoirement. Si on veut que ce soit efficace, il faut bien hiérarchiser les choses. Et donc, quand on lui dit le Mishpechotam, on va l'attribuer, enfin, on va lui dire tu appartiens à cette famille-là, et dans cette famille-là, ton rôle, c'est celui-là. Tu es ou bien le chef de la famille, ou tu es le Bechor, ou tu es la mère de famille, ou etc. À chacun, on va dire exactement son rôle dans la famille, pour le fortifier dans la conscience qu'elle, chaque personne, a un rôle et que l'autre aussi il a un rôle, ceux qui appartiennent à la même famille que moi. Et donc, et on doit travailler ensemble pour que la famille puisse produire quelque chose à l'échelle de la famille et pas à l'échelle de chaque individu. Même chose sur toutes les autres structures, que ce soit le Bétavot, que ce soit le Chevet ou que ce soit le clan d'Israël. Et par conséquent, il va falloir, à l'intérieur de chacune de ces entités, accepter qu'il y a quelqu'un qui dirige. Il y a un chef de famille, il y a un chef de Bétavot, il y a un chef de tribu. Donc il va organiser un chef, un secrétaire, et celui-là, il fait ceci, etc. Chacun son rôle. Le rôle de chef, c'est un rôle parmi d'autres. C'est un rôle qui vient souvent de la position dans la famille. Il est le plus âgé, ou il est le père de famille, ou il est le fils aîné ou la fille aînée, etc. Chacun a un rôle particulier, ou la mère. Parce qu'au sommet de tout cela, il y a le rôle donc que le clan Israël doit jouer à l'échelle du monde, et que ce clan Israël, il y a éventuellement sur ce clan Israël, il y a un roi, mais au-dessus de ce roi, il y a Hachem. Donc il faut accepter d'obéir à Hachem. Accepter cette hiérarchie qui fait que tout en haut de la hiérarchie, il y a Hachem. Et cette obéissance à Hachem, quelque part, c'est une chose que on a apprise progressivement dans le désert avec un, et c'était ça la fonction de ce dénombrement-là, de mettre chacun exactement à sa place.
assez vite et de chez toi, assez vite dans toute notre histoire. Il n'a pas dit que Moshe soit Kohen, nous sommes tous des Kohen, l'autre, ils sont pleins d'autres choses.
Alors c'est ça le problème, c'est qu'évidemment il y a eu des accusations de népotisme ou de, enfin bref, c'est qu'on voit justement que c'est une très grande difficulté et c'est pour ça qu'il fallait rien moins que Moshe et Aaron pour mettre ça en place. C'est Moshe et Aaron qui leur ont dit la chose. Et puis il y a un souci qu'on voit ici dans ce texte, c'est que imaginez que vous vous trouviez devant Moshe et Aaron. C'est probablement tellement impressionnant qu'on n'a peut-être même pas parlé. Alors, pour que les gens ne soient pas empêchés de parler, qu'ils puissent parler à Moshe Rabbeinu, la Torah, elle dit qu'il y aura Moshe, Aaron et aussi un représentant de chaque tribu et de chaque bêta vote, pour que celui qui se tient devant Moshe, il est rassuré, il y a quelqu'un que je connais bien. Il y en a même deux que je connais bien. Il y a celui de bêta vote et celui de ma famille, éventuellement, ou de ma tribu. Bon, ça qui est écrit ici. Comme ça, il est à l'aise. Comme ça, il va vraiment pouvoir parler avec Moshe. Il va pouvoir dire ce qu'il veut, dire ce qu'il ressent, et Moshe va pouvoir lui parler et répondre à ces questions. Moshe avait déjà du répondant pour tout le monde. Donc Moshe, effectivement, il a cette capacité extraordinaire de pouvoir répondre, donc de pouvoir se mettre à la place de l'autre, quelque part, et de regarder les choses telles que l'autre les voit, et pour pouvoir vraiment le comprendre, lui conseiller, etc. Et donc c'est ça qu'on apprend ici dans ce début de Parashat Bamidbar, et c'est ça la préparation pour le Sinaï. Parce qu'au Sinaï, il faudra accepter le Hachem comme le roi, et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc quand ils arrivent là, voilà, il faut apprendre ça, parce que on en a besoin pour toute l'histoire, en fait. Dans toute l'histoire juive, on a besoin de cette structure, et chaque fois qu'elle nous manque, ça donne un désastre, une catastrophe. Donc, si on veut vraiment accepter la Torah, si on... Et puis, il y a le fait que quand Hachem parle, la voix d'Hachem est tellement impressionnante que c'est insupportable, c'est terrifiant. Quand Hachem parle au Bnei Israël, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, ils sont projetés en arrière et ils meurent. Alors, c'est vrai qu'ils ressuscitent, mais ils sont d'abord morts. Et après qu'il soit mort deux fois, disent à Moshe, on ne peut plus supporter. Mais toi, tu vas être allé au milieu, tu vas aller au milieu. Hachem va te parler à toi, et toi, tu nous parleras à nous. Comme ça, on ne mourra pas. Ils ont peur de mourir, parce qu'ils sont vraiment morts. D'une certaine manière, quand tu es confronté à la voix d'Hachem, tu dois mourir, c'est pas possible autrement. Simplement, quand tu revis, tu es un autre. Parce que quand ils ont revécu après la première des paroles, eh bien, cette première parole, elle était fichée en eux, en quelque sorte. Après la deuxième, les deux étaient fichés en eux. Et si on avait tout entendu d'Hachem, directement, l'histoire était terminée. On n'aurait plus jamais pu faire de faute, etc. Parce que quand on dit que c'est fiché en nous, ça veut dire que la Avera, elle n'est plus possible. Parce que de même que je ne peux pas décider de ne plus respirer et de vouloir vivre quand même, je ne peux pas décider de ne pas respecter les ordres qui sont donnés par Hachem et vouloir vivre quand même. Ça marche pas. Mais ça n'a pas eu lieu parce que nous n'avons pas entendu toutes les paroles et du coup, même celles qui s'étaient fichées en nous, elles se sont diluées, en quelque sorte, elles ont disparu parce que ça forme un tout. Les Aseret HaDibrot, on l'a dit plusieurs fois, ça forme un tout, on ne peut pas faire son marché dedans. Qui?
À une parole d'habitude,
Oui, non, mais ça, on n'a rien compris. Après, il a tout redit, un par un. Parce que ça, on n'a rien compris. Quand il a dit tout à la fois, ça sert à nous dire que ça forme un tout. Mais,
n'est-ce
comme c'est marqué, que personne ne peut ni parler comme ça, ni entendre quoi que ce soit. On n'a rien entendu.
pas? J'avais pensé que c'était cette énergie de toutes ces 10 paroles qu'on dit ensemble. Okay. Vous ne pouvez pas se dire qu'ils sont morts. Parce
Non, non,
qu'avec 8 paroles,
c'est pas ça
vous
du tout.
pensez.
C'est pas ça du tout. Ils sont. Hachem, quand il a parlé, personne n'a rien compris. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Oui, toutes les paroles en même temps, on ne peut pas. Déjà, Zahor et Chamor ensemble, on n'arrive pas. Pour montrer que c'est un. Pour montrer l'unité des choses. Montrer que ça forme un tout. Et qu'on ne peut pas faire son marché. Non, alors, il y a d'abord cela, et ensuite, il les a comme, nous les enseigner, il fallait les enseigner une à une, donc on aurait pu penser qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors d'abord, avant tout, je te dis que ça forme un tout. Et maintenant, si je te les donne un à un, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement que de les donner une à une. Elle, ça veut dire c'est le tout a tremblé, la terre a tremblé, tout a tremblé à ce moment-là quand Hachem parle, c'est tout est chamboulé parce que si on peut parler la parole d'Hachem, c'est une parole qui est tellement puissante qu'elle est évidemment performative, c'est-à-dire quand il dit quelque chose, c'est comme si c'était fait, c'est fait, comme ça. Et quand il parle, c'est les Bnei Israël, ils n'ont pas entendu, même obligatoirement au départ, le contenu, ils ont entendu la voix. Quand on entend la voix, c'est qu'on n'entend pas le dibour, on n'entend pas les paroles, on entend le bruit. Si on parle ici et que on entend le bruit dans une des pièces là-bas au fond, on n'entendra pas les paroles, mais on entendra du bruit qui nous dira, ah oui, les gens sont en train de parler, mais même si on n'entend rien du tout du détail de ce qui est dit. Alors, par la suite, quand Hachem va parler avec Moshe Rabbeinu, il va aussi parler avec une voix très très puissante. Mais personne n'entendra rien, sauf Moshe. Et en vérité, cette histoire de la voix, ça commence plus tôt. Quand Moshe Rabbeinu, comme berger de Yitro, est en train de faire paître les troupeaux, et qu'il suit l'agneau, et qu'il arrive au pied du Sinaï quasiment, et à ce moment-là, il voit un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Alors il dit, mais je vais aller voir ce que c'est. Alors il s'approche pour aller voir, pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, Hachem lui parle. Il lui parle pour la première fois. Il lui dit, enlève tes chaussures. La terre sur laquelle tu marches, c'est Admat Kodesh. C'est une terre sainte. C'est la seule fois où on parle de la terre sainte. Vous faites remarquer que c'est, on est au Sinaï, on n'est pas en Israël. Et Hachem va lui parle et lui dit, je vais t'envoyer, tu vas aller libérer les Israël. Le Midrash dit qu'Hachem s'est posé une question. Il s'est dit, si je lui parle, normalement, avec ma voix, c'est tellement puissant qu'il va être complètement effrayé. Mais si je choisis de lui parler Kol Dmama Daka, on prend, c'est pas, c'est léger, quoi. C'est pas très important. Hachem s'est demandé, alors, sur quel ton je vais lui parler? Hachem a décidé qu'il allait lui parler avec la voix de son père. Et donc, la voix que Moshe a entendue, quand Hachem lui a parlé, c'était la voix de son père, qu'Hachem a empruntée. Et un peu plus bas, et alors, et Hachem lui a dit, après il lui a dit, écoute, je ne suis pas ton père, je suis le Dieu de ton père. Et un peu plus bas, quand Moshe a demandé, tu m'envoies chez les Bnei Israël, mais ils vont me demander qui t'envoie. Qu'est-ce que je dois leur dire? Et une des réponses qu'Hachem a données, c'est tu leur diras, le Dieu de vos pères m'a envoyé. Moshe a demandé à Hachem, quoi, c'est le Dieu de mon père ou c'est le Dieu de leur père à eux? Hachem lui a expliqué, il y a des choses qu'il faut dire pour entrer en matière. Il n'est ni spécifiquement ton. Il est à la fois le Dieu de ton père, leur Dieu à eux, etc. Mais désormais, dit le Midrash, Hachem lui a dit, ça c'était nécessaire pour entrer en matière. Mais désormais, il n'y aura plus que des paroles de vérité. Je n'utiliserai plus de ruse. Je te parlerai avec ma voix. Et quand Hachem parle avec Moshe, même Aaron, qui est juste à côté de lui, il n'entend rien. Comme si Hachem avait utilisé une fréquence qui n'était pas audible pour Aaron. Les Bnei Israël arrive au Sinaï, et on reviendra après sur les préparatifs. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï en vérité? Si on vous demande, c'est quoi le Sinaï? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Sinaï? Qu'est-ce que vous allez répondre? Si vous répondez, Hachem nous a donné des mitzvot au Sinaï. Alors on peut vous répondre à la vérité, quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Entre la sortie d'Égypte, entre le passage de la mer et le Sinaï, il y a eu quelques étapes. Il y a une étape qu'on appelle Mara. C'est une étape où les Bnei Israël qui voulaient de l'eau n'ont trouvé qu'une eau amère. Et évidemment, ils se sont révoltés, etc. Hachem a indiqué à Moshe un bois. Moshé a jeté dans l'eau et l'eau est devenue douce. Mais à Mara, les Bnei Israël ont reçu les mitzvot. Ils ont reçu une dizaine de mitzvot. Ils ont reçu Shabbat. Ils ont reçu Kibbout Av V'Em, honore ton père, ta mère. Ils ont reçu Parah Aduma, le processus de purification du contact avec un mort, etc. Une dizaine de mitzvot. Et par conséquent, on ne peut pas dire qu'au Sinaï, la nouveauté, c'est qu'ils ont reçu les mitzvot. C'est vrai que d'un côté, il y en a 613 et là, il y en a 10, mais bon, c'est jamais que quantitatif. Donc, ce n'est pas ça, la nouveauté. Pardon? Alors, bon, alors, ce n'est pas seulement le son et lumière. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous ai dit, le Sinaï, il est consécutif à une entrée dans une alliance. Quand vous êtes dans une alliance, votre statut a changé. Et donc, les Bnei Israël au Sinaï, ils ont changé de statut. Nous, on dira, avec notre langage, on dira qu'ils sont devenus metsuvim. C'est-à-dire, ils ont reçu des mitzvot, et par ces mitzvot-là, ils ont été changés par les mitzvot. Comme nous disons, nous, chaque fois qu'on fait une bracha sur une mitzvah, on dit « Asher kideshanu be-mitzvotav » qui nous a sanctifiés par ces mitzvot. Quand tu sanctifies quelque chose, la kedusha, c'est-à-dire le niveau zéro de la kedusha, c'est la séparation. Deux choses séparées, c'est le début de la kedusha. La grande kedusha, la kedusha d'Hachem, etc., c'est une kedusha, c'est une séparation beaucoup plus importante, tellement importante qu'on n'en a aucune idée, quoi. Ça, c'est la kedusha. Les Bnei Israël ont été séparés. Bon, ils ont été Asher Bachar Banu, il a choisi, il nous a sanctifiés. Donc, on a été changés par rapport au reste de l'humanité. En particulier, notre changement a entraîné que, ce dont on a déjà parlé, je crois, que tous les peuples ont un Dieu et nous, on n'a pas de Dieu. On a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Oui, c'est clair? D'accord. Ça veut dire que nous, on a une relation directe avec Hachem. Tous les peuples ont une instance qui formate les choses de telle sorte que le peuple puisse recevoir les bontés d'Hachem à sa manière, avec sa culture en quelque sorte. Nous, on n'a pas de culture, on n'a pas de traducteur. Hachem a dit, je jouerai pour vous le rôle d'Elohim et vous jouerez pour moi le rôle de mon peuple. Toujours avec ces lamed, l'Elohim, l'Am. C'est pas je serai Elohim, mais je serai l'Elohim. Bon. Vous n'en avez pas, c'est moi qui ferai en sorte que vous pouvez recevoir directement ce que j'ai à vous dire. Vous n'avez pas besoin de traduire dans votre langue, par exemple. Donc, les Bnei Israël, au Sinaï, ils changent de statut. Ils reçoivent les mitzvot et les mitzvot qu'ils ont reçues ne sont pas les mêmes que celles qu'ils ont reçues à Mara. À Mara, ça n'a pas changé leur statut, vraiment. Ils ont reçu des ordres. Un roi donne des ordres. Hachem a donné des ordres au peuple d'Israël. Un peu, peut-être, probablement, pour qu'il s'habitue à recevoir des ordres. Ils ont reçu des ordres comme ordre, en quelque sorte. Mais ça n'est pas encore des mitzvot au sens où elles le seront au moment du Sinaï. Amara, quoi? Ce sont pas? Non, c'est pas la notion de tzivoui avec kedusha. Ils sont metsouvim, ils ont reçu des ordres. Mais des ordres comme un roi donne son ordre à ses sujets, ça les. Ils ont des ordres, mais ça les transforme pas complètement.
Je veux que ça désacralise de donner en un 10 comme ça pour s'habituer.
Non, ce n'est pas qu'il a donné 10 pour s'habituer. C'est que, de même qu'on a parlé ici de s'habituer à avoir une hiérarchie, etc., qu'il fallait s'entraîner à ça, et qu'ils vont en avoir besoin dans toute l'histoire, on n'arrêtera pas de s'entraîner, parce que c'est très difficile. Eh bien, les mitzvot que Hachem a donné, c'est. Ils vont. Il y a quelque chose qui est. Fondamental, si vous voulez, les mitzvot que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont faites, sans les avoir reçues, elles sont aussi de cet ordre-là. Bon, c'est pas du même ordre. Ils sont pas metsouvim. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de distinction entre metsouvé et non metsouvé. Mais à partir du Sinaï, il y a cette distinction. Et donc, on peut regarder. Y compris sur les avot. Si vous voulez, les avot, ils respectaient des règles qui sont presque des règles de la nature. Non, pas du bon sens seulement, c'est des règles de la nature. C'est pas du bon sens le fait de devoir respirer, etc. Mais c'est quelque chose qui est les règles de la nature, ce qu'on appelle les règles de la nature. C'est des choses qui tiennent compte de la spécificité de chacun d'entre eux. Alors, on avait expliqué que il a mangé des matzot, Avraham, il mange des matzot à Pessah. On a expliqué pourquoi. Alors, il y a bien entendu la grande question, c'est que Akadosh Baruch Hu a dit que on allait compter 49 jours à partir du deuxième jour de Pessah, c'est-à-dire à partir du moment où on aura amené le Corban Homer, 49 jours, et le 50e jour, ce sera Matan Torah, ce sera Shavuot. Mais c'est Shavuot, effectivement, c'est ce qu'Hachem avait prévu. Mais comme vous savez, mon cher Rabbeinu a décidé autrement. Et la Torah n'a pas été donnée le 50e jour. La Torah, elle a été donnée le 51e jour. Vous vous souvenez pourquoi, probablement? Parce que mon cher Rabbeinu. Alors. Techniquement, il a interprété les choses de la manière suivante. Hachem a dit au Bnei Israël, pour recevoir la Torah, vous devez vous purifier hayom ou machar, aujourd'hui et demain. Et après-demain, je donnerai la Torah. Donc, si vous voulez, c'est hayom ou machar, ça veut dire mercredi, jeudi, et vendredi, je donnerai la Torah. Mais la Torah, elle a été donnée Shabbat. Pas vendredi. Parce que mon cher Rabbeinu a dit, encore une fois, c'est technique, après on va voir pourquoi il a fait ça, mais techniquement, il a dit Hayom ou Machar. Ça veut dire Hayom comme Machar. De la même manière que demain, ça sera un jour tout entier consacré à la purification. Mais Hayom, ça veut dire que si mon cher Rabbeinu leur a parlé à 11 h du matin, alors il y aura depuis 11 h jusqu'à au coucher du soleil un temps pour la purification. C'est pas 24 h. C'est un temps limité. Mon cher a décidé que puisqu'on a dit Hayom ou Machar, ça sera Hayom kemo Machar. Donc ça veut dire il faut 2 jours entiers. Et donc aujourd'hui ça compte pour beurre. Et ensuite, jeudi, vendredi, purification. Alors aujourd'hui aussi, mercredi, la fraction de la journée, purification. Jeudi, vendredi et Shabbat, je donne la Torah. Ça, c'est une initiative de Moshe Rabbeinu. Et Hachem lui a dit, tu as bien fait. Vous savez, il y a trois initiatives de Moshe Rabbeinu. Celle qui est la plus connue, c'est qu'il a décidé de briser les tables de la loi, sans la permission demandée à Hachem. Et Hachem lui a dit, tu as bien fait. Ici aussi, il lui dit, tu as bien fait. Et la troisième chose, c'est qu'il a décidé de se séparer de sa femme parce qu'il pensait qu'il devait être en permanence disponible pour recevoir la parole d'Hachem. Donc il s'est dit, moi je suis tout le temps dans la situation où Hachem a dit que les Bnei Israël devaient être au Sinaï. Mais Hachem lui a pas dit ça. C'est lui qui a compris tout seul. Du coup, ça a fait des problèmes avec sa sœur et son frère. Donc, Myriam a dit de la Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu à ce sujet-là, justement. Mais Hachem lui a dit, tu as bien fait. Non, il a, bien sûr qu'il a averti sa femme. Bien sûr qu'il a averti sa femme. Si elle, il fallait bien l'avertir. Elle va se demander pourquoi il. Non, non, mais elle ne s'est pas plainte du tout. Ce n'est pas qu'elle s'est plainte. Quand Hachem a donné. Quand Moshe Rabbeinu a demandé de l'aide à Hachem, il a dit, je ne peux pas tout seul. Alors Hachem a dit, OK, alors je vais te donner des aides et je vais te donner 70 personnes pour t'aider. Le problème, c'est que 70, ce n'est pas un multiple de 12. Donc il fallait bien sûr que ces gens soient pris à quantité égale dans toutes les tribus. Et donc on a tiré au sort, dans toutes les tribus, on a tiré au sort des gens, on a tiré au sort. Seulement, donc, on en avait 72. Alors, on a décidé qu'on allait tirer au sort 2 personnes qui elles ne deviendraient pas parmi les conseillers de Moshe. Mais il y en a deux, Eldad ou Medad, qui ont dit, mais nous, on ne veut pas du tout en être. Nous, on donne notre place. Donc, on n'a pas tiré au sort. Donc, il y en avait 70. Mais eux, comme ils avaient été tirés au sort, ils sont devenus prophètes. C'est-à-dire, ils pouvaient parler au nom. Ils sont mis à prophétiser. Et dans leur prophétie, ils disaient que Moshe allait mourir et que Yoshua allait être son successeur. Ça fait grand bruit, etc. Et Yoshua a dit à Moshe, Adoni Moshe, Klaem, mon maître Moshe, fais les taire. Moshe a dit, non, non, moi je suis tout à fait content. Si tout le peuple devenait prophète, je serais très heureux. Donc il ne l'a pas fait taire. Et Myriam, elle parlait avec la femme de Moshe. Et quand elles ont aperçu, quand elles ont compris que ces deux-là, ils étaient prophètes, alors Tzipora, la femme de Moshe, elle a dit, ah, je plains leur femme. Et c'est ça que Myriam a pris comme une plainte de Tzipora contre son mari, je plains leur femme parce qu'ils vont devoir se séparer de leur femme comme Elle pensait que puisque Moshe s'est séparé d'elle, eux aussi, puisqu'ils deviennent prophètes, ils vont devoir se séparer de leur femme. C'est ça qu'elle a dit. Je plains les femmes parce que. Alors, Myriam, elle a pensé que elle se plaignait, qu'elle ensuite elle a accusé Moshe en lui disant, mais pourquoi tu prends une telle initiative? Nous aussi, on est prophètes, ton frère et moi. C'est vrai que Myriam est prophétesse et Aaron est prophète, et on ne s'est pas séparés de nos conjoints. C'est là que Hachem est intervenu, etc. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne me rappelle plus où j'en étais. Pardon?
Mercredi, jeudi, vendredi.
Ah oui, d'accord, merci. Donc, Moshe a décidé comme ça, et du coup, quelque part, les choses sont un peu étranges. C'est comme si Hachem, le vendredi, il dit, je viens apporter la Torah, et Moshe a dit, c'est pas dans l'agenda, c'est pour venir demain. C'est demain. Et Hachem lui a dit, tu as bien fait. Et donc la question, c'était évidemment, pourquoi est-ce que Moshe a fait ça? C'est pas, il n'était pas obligé d'interpréter le verset comme il l'a fait. Le verset, l'interprétation du verset, elle est une façon de dire que finalement les choses se déroulent comme Hachem l'a demandé. Bon, c'est pas, j'invente pas un truc de toute pièce, c'est une lecture de ce qu'Hachem a dit. Bon, je sais pas, est-ce qu'il faut que je raconte ou bien tout le monde se rappelle pourquoi Moshe l'a fait? Bien compris, est-ce que vous... Voilà, ouais. Il faut le dire quand même. Je dis rapidement. Moshe, le problème était le suivant, c'est que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, Hachem leur a dit, vous ne sortez pas d'Égypte parce que vous avez pleuré, parce que vous avez prié, parce que vous avez souffert. Vous ne sortez d'Égypte que parce que moi, je m'étais engagé auprès d'Abraham que sa descendance allait sortir de cet endroit où ils ont été maintenus en esclavage, avec en plus un grand butin. Et donc c'est ça que je suis en train de faire. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils sont pour rien, quoi. Et quelque part, vous êtes les descendants, alors vous étiez là et maintenant on vous met là. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on puisse un petit peu justifier quand même pourquoi les Bnei Israël sortent d'Égypte. Donc il leur a donné deux mitzvot, la mitzvah de Korban Pessah et la mitzvah de Mila. Ça, ils ont eu un petit peu de mérite. Mais là, les Bnei Israël sont tout à fait passifs. Quand les Bnei Israël vont faire le veau d'or, et que, bon, au début, Hachem a condamné les Bnei Israël à mort, et Moshe est intervenu, il a obtenu, disons, d'après le Gaon, il a obtenu un sursis. Mais avant, finalement, avant qu'Hachem pardonne, Hachem a dit, je vais vous envoyer un malach, je vais vous envoyer un dieu, quoi, qui va vous diriger. Et Moshe a dit, non, non. Si c'est pour nous donner un dieu, comme ça, moi je ne marche pas, tu peux arrêter, on arrête tout. Ou bien on garde la ligne directe avec Hachem, ou bien on ne continue pas. Et Hachem a cédé. C'est pour ça qu'on est là. Il a cédé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Moshe veut absolument que les Bnei Israël aient un statut à part. Il ne veut pas être que nous soyons un peuple comme les autres. Et il ne veut pas que nous soyons en quelque sorte ballottés, mais qu'on joue un rôle, qu'on soit actif. Et il le voulait aussi pour le don de la Torah. A priori, qu'est-ce qui allait se passer? Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah. Et donc, nous, on va se donner la peine de la recevoir. Alors, c'est comme ça, on a reçu la Torah. Qu'est-ce qu'on dit à Shavuot? À Pessah, on dit Zman Cheruteinu. À Sukkot, on dit Zman Simchateinu. Et à Shavuot, on dit Zman Matan Torateinu. Le temps du don de notre Torah. Mais nous, on n'est pas du côté du don. On devrait dire, c'est le temps de la réception de notre Torah. Et pas du don, pas matan, mais Kabbalat ta Torah. Pourquoi est-ce qu'on... Les Chachamim, ils savaient aussi bien que nous. Est-ce que vous dites on a matan, est-ce que vous dites Kabbalah? Pourquoi ils ont mis dans la prière qu'on allait dire Zman Matan Torah Tenu. Alors en fait, c'est ça le grand chidouche finalement, peut-être le plus grand chidouche de Matan Torah. C'est que, vous vous souvenez l'exemple là, du cadeau. Vous donnez un cadeau à quelqu'un. Ça peut, dans certains cas, ça peut être le même cadeau à l'occasion d'une mila, à l'occasion d'une bar mitzvah, à l'occasion d'un mariage. Ah, vous donnez de l'argenterie. Mais alors, qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va différencier ces trois cadeaux? Le moment où vous le donnez. Vous l'avez donné dans le cadre de la mila. Vous l'avez donné de la fête de la mila. Dans le cadre de la bar mitzvah, dans le cadre du mariage. Donc ça veut dire que le moment où on donne quelque chose fait partie du don. Bon, le don, il ne se pense pas en dehors du moment où on l'a donné. Et par conséquent, ce que mon cher Rabbeinu a fait, il nous a mis dans la position où c'est nous qui avons décidé quand le cadeau Torah nous a été donné. Nous, ça veut dire Moshe. Bon, Moshe a dit, non, ce sera Shabbat et pas vendredi. Par conséquent, dans le don de la Torah Shabbat, nous sommes associés avec Hachem. Hachem, il a fourni la Torah et nous, on a donné le moment. On a défini le moment où ça a été donné. Alors, bien entendu, on est aussi du côté de la réception, mais on est aussi un peu du côté du don. Or, ce qui est important, c'est que finalement, les Chachamim, ils ont donné le nom de la fête de Shavuot d'après le côté. Être du côté du don et pas du côté de la réception. Être du côté du don, ça veut dire que d'une certaine manière, nous nous sommes donné la Torah à nous-mêmes. Ça change beaucoup les choses. Mais ça va dans le sens de ce qu'Hachem veut, à savoir que nous soyons associés. Donc, on est associé, grâce à ce que mon cher Rabbeinu a fait, on est associé de la façon la plus puissante qui soit, puisque nous sommes caractérisés par le fait qu'on a reçu la Torah, mais nous n'avons pas seulement reçu la Torah, nous nous sommes donné la Torah aussi. Nous sommes du côté du don de la Torah. Et c'est à cela que Hachem a dit à Moshe, tu as bien fait. Pourquoi? Ça veut dire, c'est bien ce que je veux. Ce que je veux, c'est que les Bnei Israël soient mes associés Et avec, grâce à toi, ils sont associés dans ce moment fondamental qui est de leur donner la Torah, c'est-à-dire qui fait ce qu'ils sont. Ils sont le clan d'Israël et la Torah, c'est un peu la même chose, quoi. C'est Oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est pas parfait. Les Moshe, il veut élever les Bnei Israël, et les Bnei Israël, ils disent, ben, on n'est pas tout à fait à la hauteur. Et Hachem leur dit à eux, ouais, vous avez bien fait. Pourquoi? Parce qu'il faut voir à quel niveau on est. Il ne faut pas se raconter des histoires. Si vous n'êtes pas capable d'être à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de recevoir la parole d'Hachem directement, en pleine figure, alors c'est bien que vous le disiez qu'on n'est pas capable. Oui, absolument tout le monde. Il n'y avait pas de malade parce que tous les gens qui étaient malades ont guéri. Donc personne n'est allé chez le médecin se faire faire un certificat. HM, il sait tout. Mais le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons? Et HM entérine ce que nous faisons. Pardon? Mais ce n'est pas une leçon ici. Moshe Rabbeinu, il l'a fait là. C'est de Moshe qu'on a une leçon, quelque sorte.
Je me permets de comparer Hachem comme un chef d'entreprise. Tout à l'heure, il nous a dit, vous pensez que vous n'êtes pas capable, mais si vous mesurez cette voie, c'est que moi, je sais que vous n'êtes pas capable. Et là, soudain, on s'aperçoit qu'on n'est pas à la hauteur à laquelle Hachem s'est exprimé.
Ils ont expérimenté les choses, ben, on est mort de peur et c'est insupportable.
Je ne sais pas ce qu'il en a retiré Hachem de vous faire ça.
Pardon? Hachem voulait que nous voyions à quel niveau nous en sommes vraiment.
C'est un super niveau. On était en
Il
Hachem.
nous a élevés à ce niveau-là artificiellement. Et quand ça dépendait de nous, on a dit non.
On sait qu'on peut atteindre ce niveau, mais sans l'aide, on ne peut pas
De
atteindre.
toute manière, sans aide, on n'arrive à nulle part. Mais même là, les Bnei Israël, même avec l'aide, ils ont ressuscité. On ne leur a pas demandé de mourir. Définitivement, ils sont au contraire ressuscités. Et ils sont morts avec la peur aussi, bien entendu. Cette voix-là, elle toute seule, elle avait de quoi paralyser tout le monde.
Rav, est-ce qu'on peut rapprocher ce fait de celui que de la nomination par l'homme, enfin de la décision par l'homme de son temps en déclarant la nouvelle lune? Il décide du temps.
Oui, ça, on peut le rapprocher de ce qu'on avait dit, que les moadim, les rendez-vous avec Hachem, sont des rendez-vous qui sont fixés ensemble par Hachem qui dit c'est le 15 et c'est nous qui disons quand est le 15. Donc vous avez parfaitement raison, c'est du même ordre. On est associé avec Hachem. Voilà, on s'arrêtait là.
Il est